aurait dû parler de L'étranger de François Ozon, adapté d'Albert Camus, mais par la force des choses et indépendamment de notre volonté, tel ne sera pas le cas. Tel ne sera pas le cas, même si L'étranger aurait au fond pu être le titre du film dont on va débattre à présent. Un film, comment dirais-je ? Pour tout vous dire, je ne sais pas au juste comment le résumer convenablement. Par où le prendre, par où commencer, tant il déborde de toutes parts, porté par une ambition titanesque, peut-être à son insu, mais qui fait de lui, il est clair, le Mégalopolis de cette année, au moins, et même mieux. Mais je reprends. L'étranger d'Orelsan, donc, c'est Yoroi, film en salle depuis 3 semaines, présenté au Festival Lumière, en présence d'Orelsan, de l'équipe du film et de Thierry Frémaux. Une sortie très habilement couplée à celle du nouvel album du rappeur Canet, La Fuite en Avant, que vous ne pouvez pas avoir loupé si vous avez des réseaux sociaux. Dans ce film en forme d'autofiction, Orelsan s'incarne lui-même en rappeur dépassé par un succès qu'il a pourtant lui-même désiré, ainsi que la première chanson du film, Le Pacte, également présente sur La Fuite en Avant, nous l'apprend, donc je le cite, tu l'as eu, tu l'as voulu, maintenant assume. Un montage rapide de séquences de concert ouvre Yoroi, symbolisant l'épuisement de l'artiste face à ses fans, face aux autres artistes, face aux femmes, aux belles formes tentatrices. Je vous jure que si je restitue la vision du film, c'est pas moi qui parle. Bref, à la fin de la chanson, Orelsan s'allonge sur le sol de sa loge, réfléchissant à ce désir de gloire qui s'était soufflé. Quand j'étais petit, je fermais les yeux et je m'imaginais dans une autre réalité. Je voulais être hyper connu, dit-il, à son épouse Nanako, présente dans la loge avec lui et incarnée par l'actrice Clara Choi. Cette dernière, enceinte de leur enfant, s'allonge à son côté et lui dit « t'as qu'à faire un autre rêve ». Et dans une très habile transition, tout droit sortie peut-être du début d'Old Boy, Nanako et Aurélien sont pareillement allongés dans une prairie japonaise où, par la magie de l'argent, ils ont déménagé après avoir acheté une charmante petite maison sur TikTok. Pour l'instant, tout est vrai et c'est clairement le plus vraisemblable du film. Dans cette maison, tout droit sortie des films de fantômes japonais, des films de Kaidan, comme on dit, genre dans lequel on peut s'illustrer des réalisateurs aussi différents que Kenji Mizoguchi, Kiyoshi Kurosawa ou Masaki Kobayashi, dans cette maison se trouve un puits très profond, un thème que l'on connaît notamment en Occident, les fantômes et le puits au Japon, de Ring. Pour être sa manifestation la plus connue. Après quelques scénettes de vie quotidienne, parmi lesquelles un entraînement de free fight avec sa femme enceinte qui lui met une race, décidément les femmes enceintes badass sont un thème de l'année au cinéma avec les 4 fantastiques ou une bataille après l'autre. Le film donc commence pour de bon lorsqu'Aurélien tombe dans le puits, évidemment, on attendait que ça arrive, où il trouve une armure, bon, visiblement achetée sur Wish par le chef déco, mais dont on doit croire qu'elle est médiévale. Cette armure, qui se dit en japonais Yoroi, dont le titre du film, s'accroche à lui comme des magnettes à un frigo et l'homme ne peut s'en défaire. Bon, pourquoi pas, me direz-vous. Jusque-là, on est sur une réalisation assez banale, on a un peu peur de s'ennuyer parce que quand même ça fait 2 heures. Et puis tout d'un coup, Orelsan est hanté par des créatures cauchemardesques sorties du folklore japonais et des plus terrifiantes gravures d'ukiyo-e. Vous savez, c'est cet art nippon avec des créatures, des êtres humains assez particuliers, assez étranges et où ont été fixées les représentations des fantômes des traditions populaires. Mais on est en 2025 et cet imaginaire folklorique est enrichi dans Yoroi de l'imaginaire d'Internet et plus particulièrement du brain rot qui avait hanter les réels Insta, ces créatures générées par intelligence artificielle qui s'appelaient Tralalero Tralala, Boneka Ambalabu ou encore Ballerina Cappuccina Mimi, qui sont en soi des yokai modernes. L'explication de cette hantise nous est donnée par une vieille dame japonaise, évidemment, au fond d'une pâtisserie louche à Osaka. L'armure est maudite et son propriétaire est condamné à être attaqué toutes ses nuits par ses démons, qui sont aussi ses démons. Alors bon, faut imaginer CES, SES. Bref, des créatures qui ici représentent les démons d'Orelsan, donc l'alcool, les bonnes meufs, la culpabilité, la famille toxique, Mélenchon, la peur de la paternité et plus généralement la haine de soi. Tout est vrai. Le film consiste après cela en un enchaînement de scènes de bagarre entre Nanako, Orelsan et les yokai. Et de nouveau, on craint l'ennui. On se dit, ça va se répéter. C'était sans compter sur un retournement de situation inattendu. Puis puisque dans une scène qui rappelle la première séquence de Dreams d'Akira Kurosawa et la forêt magique de Princesse Mononoke, Orelsan est guidé par un yokai apparemment gentil, un gland, et je parle pas du fruit du chêne géant, qui pue et qui parle d'une voix fluette, et puis qui guide donc Orelsan vers un arbre magique. Là, le rappeur est endormi par les yokai, hein, il s'est fait avoir, évidemment, il ne fallait pas faire confiance au gland géant, et leur chef, à ses démons, prend la forme du rappeur et se rend à Paris, où il ruine sa réputation en se faisant passer pour lui. Plus exactement, il se révèle aux médias français et au monde français comme Aurel Sama, sorte d'alter ego fasciste, exacerbant le côté haine de tout et de la médiocrité française qu'on peut parfois percevoir dans les chansons d'Orelsan ou dans ses premières chansons. Orelsan rentre alors en France, accompagné de son épouse, de son producteur et d'autres personnes que je connais pas parce que j'ai pas toutes les refs du Orelsan lore, j'avoue, pour livrer une bataille finale contre ces yokai pour récupérer sa réputation et puis peut-être pour aussi devenir un bon père et vendre un album comme il se doit. Voilà pour un résumé un peu global du film. Sur lequel on pourra revenir peut-être plus en détail parce que globalement ça le mérite qu'on revienne plus en détail et sans même s'inquiéter d'une partie spoil ou non, parce que si on s'intéresse uniquement à la narration, bon bah tout est cousu de fil plus blanc que blanc et puis surtout on aurait beau vous raconter tout le film, vous seriez quand même surpris en vous y rendant. Le problème de Yoroi, c'est au fond qu'il est donc extrêmement dur d'en parler sincèrement, parce que on a le risque de la condescendance ou de la sursignification dans les deux cas, du fait même de la situation de notre point de vue, de notre situation d'étudiant ici à l'ENS. Enfin, Claire Nathan, vous êtes en théâtre, Aubry et moi, on est en cinéma. Voilà, on le dit pour dire qu'on en est conscient, tout comme il y a une vanne vite fait sur l'appropriation culturelle au début d'Yoroi pour dire qu'Orelsan en est conscient. Maintenant, on peut en parler franchement. Petite personnelle, je trouve que c'est un film, je trouve sincèrement que c'est un des meilleurs films de l'année pour son côté prophétique, visionnaire, absurde. Enfin, je veux dire, j'ai un peu dit des choses qui s'y trouvaient, mais enfin, il y a Laurent Delahousse qui se fait victime à un moment, il y a un gland géant qui parle, enfin pardon, rien que ça, il y en a d'autres que je vous laisserai évoquer pour pas gâcher la surprise dans les premières minutes du podcast. Enfin, je veux dire, rien n'est prévisible, rien du tout, il y a une velléité expérimentale qui est fascinante, et donc tu sors du film avec le sentiment d'avoir jamais vu ça de ta vie. Ce qui est suffisamment rare au cinéma pour être noté. La dernière fois que ça m'est arrivé, c'était Sailor et Lula au Festival Lumière. Bon bah voilà, ce film Yoroi est un chef-d'œuvre et rien ne sera plus jamais comme avant après ça. Mais je vais vous laisser parler et vous demander ce que vous avez pensé de ce film, tout simplement, signé d'ailleurs ce film, je ne l'ai pas dit, par David Tomaszewski, déjà auteur de la quasi-totalité des clips d'Orelsan. Bref, Nathan, Yoroi, t'en as pensé quoi?
Je sais pas, que veux-tu dire? C'est... Bah non, mais en vrai, je suis assez d'accord avec toi. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et je ne sais pas ce que j'ai eu. Je suis perdu. C'est vraiment. C'est une folie. En vrai, là où je te rejoins, et c'est une des premières choses que je me suis dites pendant le film et après, c'est qu'en vrai, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu un film comme ça, franchement, et du coup c'est déjà assez dingo. Je suis d'accord qu'il y a un culot quand même assez dingue, c'est quand même très audacieux, genre que ce soit, enfin tu l'as dit, il y a Laurent Delahousse qui se fait victime, enfin en fait il y a aucun filtre, le film n'a aucun filtre, non. Genre c'est vraiment une folie, et même je trouve que visuellement il est super. Les yokai sont top, je les aime tous vraiment beaucoup. aussi absurde que le drapeau français en yokai, le drapeau français yokai quand même.
Que tu peux nous décrire?
Il est super. Bah, c'est The Substance mais en bleu, blanc, rouge, voilà. Et qui gicle du sang bleu.
Le bleu à la tête de Zemmour et le rouge parle comme Mélenchon, voilà. En réalité. C'est pas une blague.
C'est dingue. Et puis non mais c'est tellement absurde, pourquoi parmi les yokai il y en a une qui est un vrai yokai un peu déformé, mais c'est un vrai, les autres par contre c'est complètement ça n'a aucun sens en fait, vraiment. Mais le moodboard du film, waouh, ça a saturé, le moodboard du film est dingue, c'est complètement loco. Donc voilà, je sais pas, tung saour quoi. Enfin voilà, je sais pas quoi dire de plus. Non, si, une petite pensée pour le monsieur qui était à côté de moi au cinéma et qui, au bout de 5 minutes, m'a demandé quel était le nom du film. J'ai été tenté de lui dire, il y a vraiment la gueule d'Orelsan en énorme bougre d'abruti. Puis après, j'ai eu un peu de peine pour lui parce que je me suis dit qu'il savait probablement pas qui était Orelsan et qu'il allait passer deux très longues heures. Et finalement, il a adoré, je crois. Il n'a fait que rire à des moments un peu inappropriés, mais c'est ok. Enfin, bon, voilà, il a passé un bon moment, tant mieux pour lui. Et j'ai passé un excellent moment aussi, voilà, je le dis, c'était. C'est, alors, de moins en moins bon quand même. Enfin, je sais pas, je trouve que le film, bon, on pourra en parler plus premier degré en essayant de se poser après, mais t'as essayé de refaire le fil. Et je trouve que y a un premier acte qui est vraiment assez réussi, un deuxième acte qui est bien. Et la fin, moi j'étais. Enfin là, c'est trop pour moi. Genre, c'est vraiment trop n'importe quoi. On peut spoiler l'ocytocine. Enfin, je veux dire, la solution, c'est l'ocytocine. Enfin, c'est hilarant, c'est trop drôle. Enfin, après, Luc Besson avait fait pareil, mais bon, c'était tout aussi ridicule. Donc, bon.
Mais c'est mieux.
Orelsan, ça a le mérite de ne pas être son métier de base. Et c'est super, franchement, voilà, j'ai passé un très bon moment. Mais évidemment, enfin. Trop de questions et, voilà.
Et si peu de réponses.
Ouais, vraiment.
Aubry, quelles sont tes questions? Quelles sont peut-être tes réponses
Je t'en supplie, éclaire-nous.
Trop de questions et si peu de réponses aussi. Je sais, la seule réponse que j'ai, c'est qu'on a passé un très 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 bon moment à la séance de 22h de l'UGC Confluence. Non, c'est... En fait, ouais, enfin, comme vous, c'est assez dur de mettre des mots là-dessus. Parce que j'avais des questions en sortant du film vendredi soir. J'ai toujours pas de réponse là, lundi soir. Donc bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, c'est vrai qu'en fait, le film, pour le coup, genre, n'en finit pas de t'étonner. C'est-à-dire que même quand tu dis non, mais il va pas faire ça, il va pas continuer dans cette voie-là, il y va en courant, il défonce la porte. Tu te dis, oula, les effets spéciaux sont quand même... Enfin, En vrai, sont plutôt pas mal, mais tu te dis, il y a quand même des choix esthétiques douteux là-dedans. Et tu te dis, ça, ouais, il va pas aller beaucoup plus loin et tout. Et si, parce que c'est de pire en pire. Enfin, de pire en pire, de meilleur en meilleur en même temps. Mais à la fin, juste, tu te laisses embarquer, à la fois sidéré, et puis juste, tu exploses de rire à chaque séquence. Il y a un nombre d'images surréalistes que je n'aurais pas pensé voir et qu'elles s'impriment dans ma tête un jour. C'est assez dingue. Et ouais, il y a ce truc de... On rit beaucoup du film et en même temps... comment dire, c'est vraiment les excès du film lui-même qui nous font rire. En fait, c'est un peu la version... plus de Chien 51, tu vois, de ce qu'on disait l'autre fois. Genre, on se moque pas vraiment, genre, juste du film, enfin, cyniquement ou quoi. Il y a un côté vraiment pur plaisir régressif et c'est assez génial, quoi. Et disons que même lui, tu vois, enfin, t'as du mal à comprendre s'il se rend compte de ce qu'il est en train de faire ou pas.
J'ai l'impression, on pourra y revenir, mais en tout cas, qu'effectivement, le film tend souvent le bâton pour se faire battre, ouais. Et reconnaît sincèrement qu'il est un peu nul.
Mais du coup, ça le rend super drôle, quoi. Enfin,
oui, complètement.
Donc non, bah, c'est un super moment et un des objets les plus étranges qui m'a été donné de voir.
Ça, c'est clair. Claire, pour toi, qu'est-ce que c'est, Yoroi?
Qu'est-ce que c'est? Je sais pas si j'ai la réponse. Et je pense que c'est même impossible de savoir, mais j'ai trouvé... Enfin, en tout cas, il m'est apparu comme vraiment du pur Orelsan, en tant que Orelsan, personnage médiatique, mais enfin... généralement médiatique, mais évidemment le chanteur, le rappeur, tout ce que vous voulez. Et que oui, moi je l'ai beaucoup écouté, je connais, il y avait beaucoup de refs et j'ai trouvé ça hyper fun de chercher un peu à quoi il faisait référence tout du long. Et justement, je pense qu'il l'a pensé, enfin, il a dit l'avoir pensé en trois volets, enfin, comme un espèce de triptyque bizarre avec donc le film, l'album et ses concerts. Donc à voir ce que ça donne pour les concerts, ça c'est un peu mystérieux. L'album que personnellement j'ai pas vraiment aimé, je trouve fait beaucoup plus sens après avoir vu le film, et surtout toutes les rêves des chansons d'avant, des films, de ces clips, de tout ça, en fait je sais pas si on n'a pas le personnage en tête, j'ai encore moins je vois encore moins ce qu'on pourrait éventuellement comprendre du film, sachant que même en ayant le personnage, je comment dire, on comprend pas ce qu'on voit, enfin on sait pas trop où il va, on sait pas. Et en fait, c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est le côté on sait que le enfin Orelsan est connu de cette façon-là, on va pas faire semblant là-dessus, on va le prendre comme ça. Il va pas jouer, il joue pas vraiment un rôle en fait, il est juste lui-même tout le temps, enfin lui-même face aux médias de façon générale.
Enfin, le rôle qu'il a d'habitude, quoi. Ouais.
Oui, c'est ça. Enfin,
il est toujours en rôle, enfin, d'une certaine façon.
Oui,
quand
oui, voilà.
Mais... Quoi, mais du coup, ouais, il est pas autrement.
Mais il parle de cette façon. Au début, je me suis dit, oh mon dieu, mais qu'est-ce que ça joue mal. Et en fait, une fois que tu rentres là-dedans, bon, bah, tu t'y fais.
C'est clair.
Et c'est comme ça pour tout. Et de ce point de vue-là, je trouve que le film est assez. Enfin, qu'il y a une forme d'humilité, de on n'a jamais trop fait du cinéma, on fait des clips. Enfin, le réalisateur, je veux dire. Mmh. Et même Orelsan, c'est ce truc de on s'éclate avec ce qu'on peut faire et c'était fun. Enfin, c'est fun à regarder, c'est juste. Ouais, ouais juste non, fun. Enfin.
Je suis complètement d'accord, je suis complètement d'accord. Et je trouve qu'en fait, il réussit beaucoup mieux son exercice d'auto-parodie, de je vais donner un film à mon personnage d'auto-promo et finalement. Arriver à faire un film, à faire du cinéma réussi, si on pourrait effectivement en parler de façon un peu plus sérieuse, que par exemple un film qui était sorti cette année dont on n'avait pas parlé ici parce qu'il est sorti en juillet, qui était I Love Peru de Raphaël Quenard, qui était un faux documentaire où Quenard...
Elle n'était jamais sortie cette émission ?
Non.
Ah.
Quenard joue son propre rôle assez insupportable déjà en soi, donc... et qui partait au Pérou, enfin dans un style, c'était excessivement pénible, parce que, alors même que le film en soi n'est pas si éloigné de celui-ci, dans la mesure où il veut exacerber les travers de la personnalité médiatique qui était Raphaël Quenard, ou ici qui est Orelsan, mais, enfin comme tu le disais Nathan et Aubry, c'est, enfin le film il est aussi conscient, enfin dit quand les blagues sont pas bonnes. Enfin, il y a des personnages qui clairement disent, enfin, quand Orelsan fait une vanne et que sa compagne ne rit pas, ben il dit ah t'as pas gaulerie là. Et du coup, en fait, le film est constamment en train de te dire qu'il sait ce qu'il fait et ce qui le rend pas du tout insupportable non plus. Et c'est un dispositif qui moi m'a complètement a complètement fonctionné sur moi et alors même que je suis pas fan au sens où je suis pas enfin j'écoute pas énormément de Orelsan ni je ne connais à fond son personnage, c'est ce qui a rendu très très plaisant aussi pour moi ce visionnage là.
Ouais, juste pour rebondir sur ça et sur ce que tu disais aussi Claire, je trouve que justement c'est cool parce que ça fait, il y a aucun moment, enfin globalement ça fait pas fan service pour autant quoi. Ouais. C'est-à-dire que moi les rêves je les ai vraiment pas toutes spot, j'en ai eu quelques-unes. Mais je trouve que c'est assez, enfin franchement ça fait pas c'est pas du fan service. Le seul moment où, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai moins aimé le dénouement, c'est quand à la fin t'as juste Grange qui apparaît
s'assoit un abribus, il est sous un abribus, bon, c'est okay. Assez terrifiant
pourquoi pas. Il hoche la tête comme un daron, ouais. En mode bien joué mon fils. T'es en mode mais mec non.
Donc voilà, c'est le seul moment où vraiment t'es en mode bah, pas nécessaire vraiment.
Puis j'ai peur qu'il y ait Grange sous des abribus le soir que je tourne en tête et qu'il soit là.
Mais sinon globalement sur ça je trouve que c'est assez réussi, limite ouais. Là où on reconnaît là où on retrouve le plus Orelsan, c'est oui dans l'iconographie et tout, mais aussi dans, en fait, dans l'écriture et dans les dialogues et toutes les punchlines, en fait, il y a plein de punchlines qui pourraient littéralement être dans des sons d'Orelsan, quoi. Oui. Franchement.
Mais c'est que ça, même.
Oui, c'est quasiment que ça. Et du coup, sur ça, c'est vrai que c'est hyper. Enfin, c'est très fidèle au personnage.
Ouais, et puis c'est plein de paradoxes. C'est-à-dire que, enfin, genre, comme tu l'as dit, il y a une partie. Enfin, un versant du film dans lequel tu te dis, non, mais ils savent ce qu'ils font, tu vois, ils savent ce qu'ils font. Et en même temps, quand tu regardes le film, tu te dis non mais c'est pas, enfin ils sont en pilote automatique, tu vois. Et c'est les deux en même temps et constamment. Et c'est pareil sur la question des refs. Enfin genre t'as des refs, tu peux voir des refs quasiment tout le temps à chaque plan, que ce soit à des films, à de la pop culture, à de la musique, etc. Et en fait disons que le film les cite, mais des fois, t'as même pas l'impression qu'il les cite consciemment. Et du coup, il est dans un espèce d'entre-deux où il fait ça de manière volontaire et involontaire. Et il te laisse devant ce truc-là qui finit par se créer lui-même et en fait, se grandir lui-même, j'ai pas d'autres termes, au fur et à mesure. Et c'est complètement délirant, quoi.
Oui, tout tient tout seul par le tout ce qu'ils ont créé autour de cet univers et de là où... Enfin, ils y vont à fond, en fait.
C'est ça. Et en même temps, tu sais pas comment ça tient, en fait.
Ouais. Mais par contre, pour le coup, le personnage de sa femme, qui... Enfin, je sais pas si c'est lié, mais pour moi, fait beaucoup moins partie de son univers. Enfin, fait partie, mais toujours de manière un peu excentrée, etc. Là, moi, je crois que j'ai un petit souci avec elle, mais... Enfin, avec de son traitement, je veux dire. Je sais pas si c'est sur... Enfin, c'est surtout au moment de la fin, je pense, avec le côté très masculiniste, général de Horst, Aurel Sama, tout ça, qui fait que, déjà avant, elle était très seule, très... la seule femme, tout ça. Et là, à la fin, on y arrive. Et, enfin, je...
Bah, c'est clair que le film...
Je suis un peu gênée de ce point de vue-là.
Brille pas par sa représentation...
féminine, non, ça c'est clair, mais... Mais on dirait même qu'ils se sont pas posé la question, alors que, comme tu disais, pour le... cet attachement au Japon, etc., il y a beaucoup plus une forme de conscience de « bon, on connaît pas tout, on parle de ce point de vue-là ». Alors, c'est un peu maladroit, hein, mais il y a quand même... Alors que là, rien ne se pose, quoi. Enfin,
Mais là, je te rejoins, c'est que je trouve qu'au début, limite, il y a un effort, en vrai, genre, pendant la première partie, je trouve qu'il y a quand même cette dynamique duo où c'est assez... où je trouve que c'est moins dérangeant, mais il y a vraiment un moment... où en vrai elle disparaît en fait à partir du moment où Ablai et Scred arrivent, bah il y a plus besoin d'elle parce que c'est bon, le trio est réuni quoi, il manque que Gringe et en fait il y a plus besoin de la meuf, donc voilà.
Oui, et puis enfin en plus ils servent du côté elle est enceinte, donc en vrai sur le côté, alors que je veux dire depuis le début du film elle tabasse tout le monde, alors que je veux dire le bébé tu vois s'il naît à la fin c'est un miracle,
puis finalement ça devient pour le coup effectivement, enfin tu parlais en off d'ego trip au Brie, mais il y a de ça sur cette troisième partie que tu dis être la plus faible, Nathan, et ce qui fait qu'aussi je te rejoins sur Claire, ce que tu viens de dire sur la question du personnage de Nanako. Effectivement toute la troisième partie, on peut le dire, se passe dans la tête d'Orelsan, plus ou moins, c'est pas très clair. En tout cas, sur une espèce de... Oui, à Paris, mais... voilà, d'entre deux, en gros, sur une sorte de scène de concert, en gros, où il s'affronte lui-même, où il se retrouve face à tout un tas de choses de son passé, qui soient à la fois... Des vidéos, enfin le documentaire d'Amazon, qui est en fait le documentaire d'Amazon, sur Orelsan, mais aussi des espèces d'action figures de toutes les époques différentes de la carrière d'Orelsan. Mais c'est vrai que d'un coup, ça devient spécifiquement lui, la question de... c'est littéralement ça, la petite voix négative dans sa tête, c'est-à-dire que finalement... tout le combat avec les yokai est résolu par cette espèce de pirouette en mode visiblement, enfin
en mode développement personnel.
En mode développement personnel, c'est littéralement ce que c'est. Ouais. Mais qui donc effectivement devient du développement hyper personnel et qui fait que l'intrigue, si jamais il y en avait une, disparaît complètement au profit d'un truc hyper banal, hyper vu et revu en réalité.
Ouais, mais en plus je trouve que la fin, paradoxalement, c'est la partie qui se prend le plus au sérieux. Et vous parliez tout à l'heure du fait que le film est conscient de ce qu'il est et que c'est ce qui le rend parfois aussi plaisant et agréable à regarder, aussi drôle, etc. Et à la fin, c'est aussi ça moi qui m'a dérangé, c'est que pour le coup, il y a un truc où j'étais limite un peu mal à l'aise d'être face à la psychanalyse d'Orelsan. Bon, je vais paraphraser un grand homme, en tout cas un gros cerveau, mais il faut faire des psychanalyses, tout le monde doit faire sa psychanalyse. mais le problème ici, et je vais reparaphraser ce même cerveau, c'est que là il y a guérison. Et la guérison est par définition déceptive, car elle est de surcroît, comme dirait Lacan.
On parle d'Olivier Neveu.
Oui, on parle d'Olivier Neveu. Voilà. Merci.
Pour celles et ceux qui n'ont pas.
Merci pour tout. Donc voilà, le côté résolution de psychanalyse de cette dernière partie, et d'une manière très bateau, qui est les pensées négatives, c'est pas bien, et l'amour, c'est vachement mieux.
Clair. D'autant que ça se couple en plus d'une espèce de résolution aussi, de guérison aussi de la société, puisque d'un coup on a cette scène très étrange où s'insère justement le contre-champ de je ne sais pas quel champ sur Gringe, de juste plein de gens qui marchent, mais alors il y a des flics, il y a des gilets jaunes, il y a des cuisiniers.
C'est hyper bizarre.
C'est très très. C'est-à-dire qu'Orelsan sauve christiquement la société d'une certaine façon en se réconciliant avec lui-même, qui est. Enfin, ce qui est assez intéressant aussi, par contre, je trouve, par rapport à ce que Claire, tu disais de sa, bah de, du rapport méta sur sa carrière, sur ce, etc. Par rapport à sa suicide social era, enfin d'une certaine façon.
Ouais, mais c'est beaucoup, beaucoup dans la troisième partie.
Parce que justement, Aurel Sama.
Mais même Aurel Sama, il
est vraiment.
Réexiste le film, non ? Enfin, ce personnage existe déjà, non ? Dans...
Ça,
je suis pas sûr.
Je sais pas.
Je suis pas sûr.
Le nom, je sais pas. Mais par contre.
Mais oui, il y a vraiment ce personnage qui déteste le côté.
Oui, ça, oui, dans les images.
Médiocre, tout le monde est merdique au même titre, les jeunes, les vieux.
C'est pas juste San.
Non. Ah si, oui, ah, si, t'as raison. Ça,
je crois. Mais ce qui fait que du coup, je trouve qu'il arrive à faire ça beaucoup mieux qu'Eminem, par exemple, l'année dernière, avec son album où il l'album d'Eminem qui était sorti l'année dernière, où il essayait de se défaire des personnalités problématiques, entre guillemets, qu'il avait autour de lui, que ce soit Marshall Mathers, que ce soit autre chose, mais qui finalement n'arrivait absolument à rien, juste à être gênant, faussement provocateur et tout. Là, il y a très littéral, mais bon, ce qui est du coup aussi un peu décevant, très littéralement une exorcisation dans une personnalité qui est créée et qui est vaincue et qui est mise de côté avec Aurel Sama pour, en gros, oui, mettre un terme au côté provocateur, je déteste tout d'Aurel Sama avant et qui, bon, de fait, a ce côté décevant aussi.
Et en même temps, il y a le côté complètement paradoxal de... Enfin, ce truc émane pas complètement de lui parce que à la base, on pourrait avoir tendance à l'oublier à la fin du film, mais à la base, c'est un espèce de gnome malicieux violet là, dégueulasse,
ouais, à l'esprit tordu,
qui passe toute la première moitié du film à commenter le film à côté de nous en mode abruti, sale con.
Ouais, c'est la merde. C'est... On continue.
C'est une ambiance.
Qui est la manifestation visuelle de la petite voix dans la tête. Ouais. De
voilà. Et en même temps, en fait, il y a un truc un peu bizarre de du coup enfin faire de ce truc là du coup un des yokai vraiment extérieur en fait à Aurel San avant d'en faire le double d'Aurel San, mais il y a un côté un petit peu enfin déceptif, mais pour le coup dans le côté tu crées ton problème et tu le résous toi-même et du coup c'est comme si tu l'avais pas résolu au fond. Ça fonctionne plutôt bien dans le film, mais ça fait un peu vain quand même, quoi.
Mais j'ai une question. Vous avez considéré qu'on était dans la tête d'Aurel San tout le long, à quel moment?
Moi, à partir du moment dans l'espace sans forme, l'espace tout noir avec
le truc un peu jeu vidéo,
ouais.
Avec les dalles de Billie Jean là.
Ouais. Oui, oui.
Mais moi, au début, j'avoue, je me suis demandé si tout le film était pas dans sa tête.
Bah, voilà, ouais,
le cut loge mon Fuji.
Et même. Sur scène.
Oui, même sur scène, loge.
Sur scène, loge, ça à la limite, bon. Et ensuite, d'un coup, au Japon.
Oui.
Bah, c'est que même enfin, genre le tout début, quand il quitte la scène et qu'il passe dans les couloirs et tout, enfin, t'as déjà ce côté, genre, les personnages qui ont un côté ultra caricaturé. La caméra, entre guillemets, est déjà dans sa tête, quoi.
Oui, c'est vrai. Et puis, effectivement, la réplique qui déclenche en fait le passage tout d'un coup au Japon, c'est Nanako qui lui dit: t'as qu'à rêver d'autre chose.
Mais oui, c'est pour ça.
Et oui, non, mais t'as raison. Ouais, on est peut-être effectivement.
Et qu'en plus, d'un coup, il y a un côté vraiment très carte postale.
Ouais,
postalisation. Ouais.
Même, comment dire, entre gros guillemets, moralement, sur tout ce qui est fait le film derrière, sur ce côté carte postale, réemploi de ref à outrance, etc., même sur son humour, etc., je trouve que ça fait beaucoup plus sens effectivement si comme vous l'avez dit, tout est dans la tête d'Aurel San, parce que d'un coup cette espèce de grand épanchement visuel, imaginaire, tout ce que tu veux, un peu bordélique, ça se met derrière, alors peut-être un peu facilement on pourrait en discuter, mais ce côté, de toute façon, c'est ce qu'il a dans la tête qu'on balance là comme ça dans un film de manière complètement brute, alors qu'en fait si c'était pas ce qu'il avait dans sa tête, mais qu'il extériorisait ça un peu plus, bah t'aurais beaucoup plus ce problème de du regard qu'il porte et de la conscience qu'il peut avoir du film qu'il est en train de faire, qui d'un coup est plus aussi positif, je dirais. Ouais.
C'est vrai, mais c'est qui permet peut-être aussi le côté onirique, toutes les expérimentations formelles du film, parce que enfin, quand vous avez dit le film se tient cinématographiquement, oui, enfin je trouve sincèrement que par exemple par rapport à Chien 51 dont on parlait il y a deux semaines, il propose formellement des trucs assez inattendu, et c'est vrai que c'est pas trop un truc dont on a parlé là depuis le débat, mais dont on a parlé au début dans les avis qu'on avait, c'est du jamais vu aussi pour les libertés qu'il se permet de la création des personnages, alors qui sont en partie faits par intelligence artificielle, il y a de fait un pôle IA au générique, mais il y a aussi des moments enfin, qui sont quasiment du cinéma expérimental, en fait, d'abstraction totale, de jets de peinture étranges qui, à chaque création, en gros, d'yokai, à chaque fois que Aurélien, Aurel-san voit quelque chose qui le trigger, pour utiliser ce mot, en gros, un yokai se crée dans son esprit. Donc, s'il voit quelqu'un en train de fumer et d'être...
On SDF. Déteste les fumeurs.
Voilà,
et
non, mais
SDF.
En gros, qui lui rappelle, en gros, les gens qu'il a laissés derrière lui à Caen. S'il voit Mélenchon et Bardella à la télé, ça lui rappelle la France et hop, il y a quelque chose qui se crée. Et en gros, à chaque fois qu'il y a un personnage qui se crée, on nous montre ce processus comme mélange de taches de peinture un peu à l'intérieur. Il y a un travail sur le son aussi. Qui est pas mal, donc c'est pour ça, allez voir ce film en salle aussi, parce que déjà le son du concert au début est super.
L'intro est vraiment chouette,
l'intro est
aussi
très
parce
bien.
Que
tu sens qu'ils font des clips.
Moi c'est pareil, l'album j'ai pas trop accroché, mais et notamment la première chanson m'avait un peu cassé la tête, et dans le film elle passe super bien, je trouve, parce qu'elle a un côté très intro et elle marche bien avec,
mais la plupart des chansons de l'album ça passe tellement mieux dans le tout fait sens, alors que quand on écoute l'album elles sont la cohérence tu la vois beaucoup moins, je trouve.
À l'exception de du feat avec SDM,
où il y a
le couplet de SDM pendant une scène de baston et où le volume est à 3 décibels. Faites-nous écouter le couplet de SDM, genre. C'est une folie.
Oui, complètement. Mais
vous n'avez pas le droit.
Mais le...
Et par contre, pour revenir juste sur ce que tu disais, Louis, il y a quand même pas mal de marionnettes.
Ouais, aussi.
Et ça, enfin, je trouve qu'il y a un côté aussi, on fait avec ce qu'on a. Enfin.
Ouais.
On fait avec ce qu'on a et c'est beaucoup, mais on fait quand même, entre guillemets,
mais oui,
on essaye, quoi. Enfin, on met les mains dans le...
C'est ça qui est génial.
Ouais, voilà.
Et qui donne une esthétique assez folle et qui fait, qui fait signe justement vers les films de monstres, vers des trucs qui se prennent beaucoup plus au sérieux, même du cinéma japonais, etc. Mais qui donc, en fait, rendent le film hyper intéressant pour ça aussi, esthétiquement et dans l'histoire du cinéma, à mon avis. Ce mélange à la fois de culture internet, que ce soit, donc on parlait de l'IA, mais il y a aussi les édits politiques en soi, hein, parce que quand Mélenchon lui parle, ça vient de là. On a aussi la culture de la YTP dans certaines formes de montage, quand Laurent Delahousse se fait victime par Aurel Sama, il y a vraiment des blancs dans la conversation qu'on dirait que c'est une YTP, genre, enfin, je sais pas si vous avez vu ce truc où Hugo Décrypte est recadré par Angèle, mais c'était exactement cette vibe là, alors même qu'ils ont tourné avec Laurent Delahousse. Donc, et en même temps, comme tu dis, Claire, on a ce côté très très attraction de, enfin, cinéma des premiers temps, de la marionnette, on fait avec ce qu'on a, et ce qu'on a n'est pas énorme. Enfin, Aubry, tu disais que le budget n'était pas si important que ça, en fait.
14 millions d'euros, donc c'est, comment dire, en gros, trois fois moins que Chien 51, par exemple. mais non, c'est clair, pour le coup, enfin, il y a un côté expérimentation de savant fou, visuellement dans le film, qui est, je trouve pour le coup le truc le plus jouissif et jubilatoire. Enfin, genre, c'est là que tu prends ton pied, que tu débranches un peu le cerveau et que le film te surprend tout le temps.
Ouais.
Parce que, encore une fois, oui, t'es là, tu te dis non, mais j'ai déjà vu 15 monstres dégueulasses, des répliques à coucher dehors, etc. Et là, il te sort une forêt avec un gland qui parle et qui pue, et un arbre où dans les fruits prennent la forme de visage, et t'es en mode mais prends mon argent, je signe pour ça. Et t'as raison de rattacher ça à une forme d'histoire du cinéma, parce que je trouve que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que je crois que c'est clair que tu disais ça au début, mais ils assument le fait qu'entre guillemets ils savent pas faire ça, tu vois, il y a un côté un peu amateur. Et ils sont vraiment entre deux, parce que avec tous ces rêves, tu t'inscris forcément dans une forme d'histoire. Et en même temps, ils sont en mode, on y vient en étant conscient et en étant,
Fan du
un peu maladroit aussi.
Ouais, c'est clair. On va terminer donc sur Yoroi. Mais sincèrement, il est intégralement recommandé par le comptoir. Unanimité à la tribune. C'est rare et ça fait plaisir. Allez voir Yoroi. rapidement, avant de conclure, eh bien, je vais vous demander vos conseils. Vous en avez l'habitude. Nathan, qu'est-ce que tu nous recommandes pour cette semaine ?
Alors, j'ai deux petits conseils. Un qui est un peu lié, enfin, complètement lié au sujet du débat d'aujourd'hui, puisque c'est un film dans lequel joue Aurel San. Et qui est Felicita de Bruno Merle,
oui.
Qui est un super film qui date un peu, je crois, 2018 peut-être, un truc comme ça, 19, je sais pas, bon, bref.
Ouais, un truc comme ça.
Voilà, et qui est vraiment avec Pio Marmaille, qui est un super... Enfin, vraiment, j'avais beaucoup aimé ce film quand je l'ai vu, je l'ai pas revu depuis, mais il est très chouette, et Aurel San, il joue un rôle assez surprenant. C'est limite dommage que j'ai spoilé qu'Orelsan était dedans en réalité, mais bon, c'est ok. Et deuxième, c'est du coup plus un film en salle en ce moment, qui n'a pas été beaucoup distribué, qui est de moins en moins, parce qu'il est sorti il y a déjà 2-3 semaines, je crois, et qui n'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est le biopic de Springsteen, Deliver Me From Nowhere, qui est vraiment pas mal. Moi, je vis depuis 2 ans, là, au comptoir du cinéma, une espèce de relation parasociale avec les biopics musicaux.
C'est vrai.
Et il y a du mieux. Franchement, il y a du mieux. Je salue les progrès. j'adresse mes encouragements aux biopics musicaux. Le prochain en date, c'est... Bon, alors, il y a celui de Michael Jackson, que je n'irai pas voir. Mais après, il y a les Beatles de Sam Mendes. Mm. Donc, on est en bonne voie. Il y a des progrès. Donc, si avec les Beatles, on a... Enfin, là, ça va être super. Je le sens, ça va être super. Donc, voilà. Et Jeremy Allen White est super. L'histoire est vraiment assez cool. Pour le coup, le film se concentre pas sur la vie de Springsteen, mais sur vraiment 3 mois de création d'un album quand il luttait contre la dépression. Donc, c'est assez deep. Et...
Ouais, mood un peu Chalamet.
Ouais, mais Dylan. Bien mieux, parce okay, que ouais. Jeremy Allen White met une vitesse à Chalamet. Et que, en vrai, même le film, globalement, est quand même mieux que okay. Compete Unknown. Un peu plus intéressant, plus d'introspection dans le processus de création d'un artiste. Ça reste un biopic, donc c'est pas toujours très fin, mais... En plus, c'est vraiment moi mon album préféré de Springsteen, Nebraska, et donc c'est très chouette. Voilà, je le conseille.
Merci beaucoup, Aubry, de ton côté.
Bah pareil, un tout petit conseil, Aurel San, même si je suis vraiment, comment dire, pas du tout fan ou connaisseur d'Aurel San à la base, mais c'est vrai que dans ses petits rôles, il a joué dans Au Poste de Quentin Dupieux, qui est un, ouais, il a un petit caméo dans Au Poste.
Le fils de Benoît Poulvord, je crois.
Ouais. Oui, c'est ça. Et comment dire, dans une scène qui est plutôt chouette et dans un film qu'il est totalement, pareil, en n'étant pas le plus gros fan de Quentin Dupieux, Au Poste, c'est jouissif au possible en 45 minutes, c'est assez génial. Non, sinon, vrai conseil par contre, parce que je sais plus quand est la prochaine fois que je reviens au comptoir, le 3 décembre, il y a un film, une ressortie de patrimoine, qui est L'œuf de l'ange de Mamoru Oshii. Mamoru Oshii, ça vous dit peut-être rien, c'est le réalisateur de Ghost in the Shell, Ghost in the Shell 2 et de beaucoup d'autres films assez géniaux. Et L'œuf de l'ange, en l'occurrence, c'est un de ses premiers films, ça date de 85. C'est dessiné par comment dire, le dessinateur des Final Fantasy, rien que ça. Ça fait 1h11, c'est ressorti par je sais plus quel distributeur, my bad. Ça sort donc le 3 décembre et franchement, foncez le voir parce que c'est... exceptionnel, vraiment un chef-d'œuvre qui mérite votre petit ticket de cinéma et la redécouverte sur grand écran.
Merci beaucoup Aubry, et toi Claire ?
Moi ça va être très simple, ça va être un album qui est sorti le même jour que l'album d'Aurel San, qui est l'album de Rosalia, qui je pense tout le monde l'a sûrement écouté, mais ça vaut vraiment vraiment le détour pour le coup, et ça se tient, enfin c'est cohérent, ça fait sens avec... avec elle, avec tout ce qu'elle a fait avant, et d'un point de vue visuel aussi, ses clips sont super, enfin sont hyper, y a plein de références, pareil, enfin c'est, bref, allez voir, allez écouter.
Merci beaucoup Claire. Et pour ma part, c'est un film dont j'avais prévu de vous parler dans une chronique un peu plus longue parce que j'ai rencontré le réal au Comédia et je sais pas trop quand est-ce que ça va pouvoir arriver. Peut-être après que le film ne soit plus en salle. Mais c'est L'inconnu de la Grande Arche de Stéphane de Moustier, qui est un film donc un peu comme Le Brutaliste sur un architecte, mais un architecte réel cette fois-ci, qui s'appelle Hans Otto von Spreckelsen, qui est l'architecte qui a conçu au départ l'Arche de la Défense, ou le Cube de la Défense, comme lui-même le pense. C'est un film qui est vraiment génial. Enfin, ça fait très longtemps que je l'ai vu maintenant, vu que j'avais vu du coup en avant-première au Comédia et qui me reste. Donc, je vais essayer d'aller le revoir même parce que il est très très intelligent, je trouve. Il est beaucoup moins ambitieux que Le Brutaliste, mais il n'est pas moins fort. Donc, il y a Swan Arlo et Xavier Dolan dedans pour et Michel Faux évidemment qui joue donc François Mitterrand. Michel Faux seulement, pas les deux autres. Pour un casting qui est assez exceptionnel avec deux acteurs acteur et une, enfin acteur et actrice danois qui donc joue l'architecte et son épouse qui sont très très bons aussi. C'est un film qualité France, mais dans, comme on disait avant, mais dans le meilleur sens possible du terme. Un scénario qui se tient, une réalisation au petit poil et qui, sur un sujet, et qui arrive à te passionner sur 1h45 sur un sujet qui, a priori, n'avait pas tout pour m'intéresser. Voilà. Tout.
Vraiment, je me permets d'abonder dans ton sens, mais jetez-vous dessus tant que c'est en salle, c'est génial.
Merci Aurélie. Tous ces conseils, vous pouvez les retrouver sur le site de Transistor et sur la page du comptoir sur transistor.fr. Merci beaucoup à tous les quatre, Élise, Nathan, Aubry et Claire, pour ce nouveau numéro du comptoir du cinéma. Merci aux auditeurs et aux auditrices. On se retrouve la semaine prochaine avec du cinéma égyptien, avec Les Aigles de la République de Tariq Saleh. Comme d'habitude, ce sera disponible sur transistor.fr et sur toutes vos plateformes de podcast. D'ici là, portez-vous bien, partagez-nous, et si le cœur vous en dit de nous rejoindre, surtout n'hésitez pas. Bonne soirée, bonne journée à toutes et à tous, et à bientôt. Vive le cinéma et vive Transistor.